Bonsoir chers auditeuristes, vous êtes bien sûr Bonjour Turbine, l'émission produite par le Media Lab en direct sur Station B depuis la cité de chantier de Colombelle et en différé sur Radio Pulse à Alençon. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur notre site internet stationb.fr, sur Spotify, Deezer ainsi que sur l'audioblog Arte. Alors aujourd'hui pour cette 78e émission, nous accueillons deux invités qui connaissent bien les lieux, mais je ne vous dis pas tout de suite qui sont-ils et elles. Nos conversations ce soir porteront sur l'éco-construction. En effet, bercés depuis notre tendre enfance avec l'idée que si nous étions des petits cochons ou des gros porcs, si on s'appelle Gérard Depardieu, notre maison doit être construite en ciment, en aglo, en tuiles pour résister au souffle du grand méchant loup. Mais, est-ce durable? Est-ce vertueux? Aujourd'hui, nous avons les preuves que non.
Bien, en effet, puisqu'à l'échelle de l'Union européenne, le bâtiment est pour lui seul responsable de 36% des émissions de gaz à effet de serre et de 40% de la consommation d'énergie finale. L'habitat est donc en première ligne pour atteindre les objectifs climatiques et la neutralité carbone à l'horizon 2050, tout ça porté par des réglementations qui renforcent continuellement la responsabilité des acteurs du secteur. Je pense notamment à la responsabilité élargie du producteur, la loi climat et résilience de 2021, et puis à l'échelle de l'Union européenne, on a d'autres directives comme la CSRD qui contraint les entreprises dans leurs déclarations de performance sociale et environnementale.
Et alors parlons-en, il y a aussi le sable extrait d'une terre qui grignote les terres agricoles et qui dérègle l'équilibre biodiversitaire. C'est le cas aussi quand il est extrait en pleine mer. Et côté ciment, l'industrie, elle est hyper polluante.
Eh bien oui, c'est pareil. À l'échelle mondiale, la fabrication de ciment représente 7% des émissions de CO2, soit trois fois plus que l'ensemble des vols commerciaux de la planète qui représenterait quelque 2,5% de l'émission mondiale de gaz à effet de serre.
Alors aujourd'hui, il faut construire vite, neuf et avec le moins de gens possible, mais notre écosystème, nous sommes de réagir. Certains le font, c'est le cas de Julia Serrière et Valentin Blanlot que nous allons accueillir dans quelques minutes. Mais avant ça, retraçons l'histoire de l'éco-construction avec Jonathan.
Jamy, avant que tu commences l'historique de l'éco-construction, laisse-moi définir rapidement ce que c'est. L'éco-construction, c'est la création, la restauration ou la réhabilitation d'un bâtiment qui a pour but de respecter au mieux l'écologie à chaque étape de la construction, mais aussi dans son utilisation. On parle ici de chauffage, de consommation d'énergie et du rejet des divers flux tels que l'eau et les déchets. Merci Fred pour la définition. Pour ce qui est de l'histoire de l'éco-construction, il faut retourner à la fin des années 40 où cette notion a fait son apparition. Mais c'est dans les années 70 que l'idée d'éco-développement au départ prend de l'ampleur. En effet, la crise pétrolière de 1973 déclenche une prise de conscience générale nécessaire à la création d'un nouveau modèle énergétique. Avec l'apparition du syndrome du bâtiment malade, l'enjeu est alors de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de créer des intérieurs qui ne rendent pas malade. Il faut attendre les années 80 pour que se démocratise sous l'impulsion de l'ONU l'emploi du terme « développement durable ». L'année 1987 voit la publication du rapport Brundtland qui évoque la nécessité d'adopter un modèle n'ayant pas d'influence néfaste sur les générations futures. C'est aussi à cette époque qu'en Allemagne apparaît le label Passivhaus qui réglemente les techniques nécessaires à la réglementation de produits de construction permettant d'économiser l'énergie. Label qui s'étendra rapidement en Europe et en Amérique du Nord. Et c'est en 1990, à Darmstadt, en Allemagne, que le premier bâtiment passif voit le jour. Dans les années 90, les investissements dans la recherche et le développement se multiplient dans le but d'expérimenter de nouveaux matériaux, mais aussi de nouvelles sources d'énergie plus efficaces. En 1997, un accord international visant à réduire les gaz à effet de serre est adopté, c'est le protocole de Kyoto. Parmi les engagements qui le composent, on trouve des recommandations liées au développement économique dans le secteur du bâtiment. Ok Jamy, on a l'histoire de l'éco-construction à l'international, mais qu'en est-il de la France dans tout ça? Pour la France, depuis 1994 et la création de l'association HQE Haute Qualité Environnementale, l'approche environnementale a pu être institutionnalisée dans des programmes de construction de taille moyenne et grande, bien qu'il soit important d'ajouter que cette démarche est avant tout volontaire. Aujourd'hui, les bâtiments sont responsables de 20 à 50% de la consommation des ressources naturelles et de près de 40% des émissions urbaines. Vous l'aurez compris, l'éco-construction est un concept récent, mais qui est d'ores et déjà un enjeu primordial pour l'avenir.
Merci Jonathan, Jamy, Fred, je ne sais même plus comment il faut t'appeler. En tout cas, tu nous as bien mis dans le bain. Oh, mais qu'entends-je ? Je crois que c'est désormais le temps de la CPV, la capsule pédagogique et véridique proposée par Alain.
Les maisons troglodytes. Troglodyte vient du latin troglodyta, qui signifie caverne. Creusées directement dans la roche, calcaire, grès, tuffeau, etc. ou en souterrain, les maisons troglodytiques ont un charme fou. Elles sont en plus un modèle écologique. Elles sont nombreuses dans les pays désertiques ou en France, dans le Val-de-Loire, en Touraine, en Dordogne ou encore en Provence. Ces habitations, créées dans des cavités rocheuses, falaises, flancs de montagne, grottes naturelles, remontent à la préhistoire et offraient abri aux hommes, dits des cavernes. Plus tard, elles ont été utilisées pour conserver le vin, les denrées agricoles des paysans ou comme refuge durant la guerre. Alors, les avantages d'une maison troglodyte. En harmonie avec la nature et leur environnement, les maisons troglodytes sont avant tout écologiques, avec une excellente maîtrise énergétique. Leur esthétique est tout à fait unique. L'isolation thermique se fait naturellement, la température intérieure est régulée par la roche et moins sujette aux variations thermiques de l'air. L'été, il y fait naturellement frais et l'hiver, il y fait plus doux, réduisant ainsi l'usage du chauffage. C'est une habitation à basse consommation énergétique. Ce type de construction est plus durable et éco-responsable. La maison est creusée à même la roche, les parois ne nécessitent pas de rajouter du béton pour être plus solide. L'isolation acoustique est exceptionnnelle grâce à la masse rocheuse. Leur emplacement offre calme, tranquillité à leurs habitants. Mais il y a aussi des inconvénients. Malgré le charme de ces habitations singulières, ils vivent présentent quelques challenges tels que l'aménagement intérieur et la rénovation du fait des contraintes structurelles. De plus, ces habitations n'ont souvent qu'une seule façade ouvrant sur l'extérieur, ce qui fait qu'elles bénéficient d'une faible luminosité. Il faut donc créer un maximum d'entrées de lumière, des vitrées, puits de lumière, etc. Autre inconvénient, il est compliqué d'avoir une aération parfaite dans ce type de maison. À la place de la VMC, impossible à installer, il faut créer des cheminées d'aération ou des trous de décompression. Enfin, le gros problème de l'habitat troglodyte, c'est l'humidité qui peut provoquer l'apparition de moisissures. Il faut veiller à ce que la roche respire bien et ne dessèche pas. Il faut donc prévoir une bonne ventilation et prendre de bonnes mesures d'étanchéité.
Voilà, c'était la chronique immobilier d'Alain. Et nos deux invités sont arrivés. Ils sont entrepreneureuses, membres de la coopérative d'activité et d'emploi Chantier de Demain, basée en Normandie, spécialisée dans les métiers du bâtiment et inscrite dans le développement durable. Il est enfin temps de les accueillir. Nous accueillons Julia Serrière, maçonne terre et isolation bois sourcé. Ancienne travailleuse du WIP aussi, alors on est toutes émoustillées. Elle fait partie aussi d'une association qui s'appelle La Louve dans la Bergerie. Ils ont acheté un corps de ferme à rénover, à réhabiliter. On en parlera d'ailleurs en fin d'émission. Et notre deuxième invité, c'est Valentin. Il a lancé Also Réemploi, et non pas Oslo Réemploi, sinon il viendrait loin, lol. Où Valentin conseille, forme et accompagne les professionnels du bâtiment et de l'aménagement au réemploi de matériaux de construction en Normandie. Bienvenue à vous deux.
Merci, bonjour.
Bonjour. Salut. Valentin, il est arrivé. Salut sur le gong, Valentin, attention. Hein. Alors je vous propose pour commencer de vous donner une petite définition de l'éco-construction et puis derrière on va voir avec Floriane si vous avez des choses pour l'alimenter. Alors pour moi la définition, en tout cas celle que j'ai trouvée, c'est construction écologique, conception bioclimatique, habitat durable, autant de concepts qui partagent tous un enjeu commun, concevoir des habitations plus respectueuses et mieux intégrées dans l'environnement.
Oui, et puis tout ça c'est assez large, ça dit beaucoup de choses et moi je me demandais en fait aussi au regard de ce que nous disait Jonathan dans sa chronique, que quand on parle d'éco-construction, ça intervient à chaque étape d'un processus de construction et assez intuitivement on pense aux techniques, aux matériaux, etc. Mais je me demandais de quelle manière l'éco-construction intervient en amont, dès la conception d'un projet, dans des nouvelles logiques, dans des nouvelles approches, comment ça se matérialise.
Dites-nous, Julia Serrière, Valentin Blanlot, qui se rapproche pas du micro, il va laisser Julia répondre.
Allez, vas-y, Julia. Je te laisse répondre.
Si, je pense que pour faire un bâtiment en éco-construction, il faut le penser dès le début et il faut qu'il y ait une volonté de tous les acteurs. Voilà, ça veut dire que les personnes, les clients, les maîtres d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, les entreprises, tout le monde doit avoir une volonté pour que ça se fasse.
Et est-ce qu'aujourd'hui, ce sont plus les particuliers ou les aménageurs qui prennent ce sujet à bras-le-corps ?
Je pense, enfin moi je travaille plutôt pour des particuliers et j'ai l'impression que, enfin moi je m'y sens mieux parce que il n'y a pas des enjeux de grosses entreprises derrière et donc c'est plus facile à réaliser et à construire de la façon dont on veut et dont on pense que c'est éthique et correct.
Même si on sait qu'il y a quand même des bailleurs sociaux qui essayent de s'y mettre, je crois, hein.
Il y a des bailleurs sociaux et pour moi, les gros projets tertiaires ou des gros ensembles peuvent s'y mettre par rapport à des labels, comme on a entendu dans la chronique précédente, HQE ou Passive House, etc. Et ces labels, ils sont ou à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe et du coup, ils sont pas du tout adaptés au local. Voilà. Et du coup, ils sortent, en fait, ils ne correspondent pas vraiment à ce qu'on a autour de nous et à ce que, aux futurs usagers, etc.
Ouais, justement, je rebondais un peu sur ce que tu dis, sur ce que disait Floriane tout à l'heure. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi la loi ZAN, zéro artificialisation nette des sols, pour lutter contre l'étalement urbain. Alors, est-ce que ça marche? Vous allez peut-être pouvoir nous le dire. Il y a aussi la loi France Rénov' qui accompagne peut-être plus les particuliers à rénover, faire un diagnostic énergétique de sa maison. Est-ce qu'on sent une vraie volonté de l'État, même de l'Europe, pour construire de manière différente?
Allez, je vais répondre.
Allez, Valentin.
Oui, aujourd'hui, oui, dans le contexte actuel, il y a des enjeux qui sont assez forts. C'est-à-dire que, grosso modo, on n'a pas vraiment le choix que de changer la façon dont on va concevoir et construire nos bâtiments, notamment, puisqu'on parle d'éco-construction. Et pour répondre à la question de Floriane, en effet, l'éco-construction, ça se pense en amont, ça se pense, comme tu disais, Julia, avec l'ensemble des acteurs. Et ça veut dire aussi que pour beaucoup de maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire ceux qui vont commander les travaux, c'est aussi un changement de paradigme, un changement de pratique à avoir. Alors, il y a un cadre réglementaire, il y a des labels qui permettent d'offrir un cadre de réflexion et aussi une mesure d'impact. Parce qu'on a besoin aussi de démontrer en phase de conception qu'on va faire un bâtiment qui est respectueux de l'environnement et de ses usagers. Et pour parler plutôt des maîtres d'ouvrage publics, privés, en tout cas des entreprises ou des collectivités qui ont des patrimoines immobiliers, qui les rénovent, qui en construisent de nouveaux, ceux pour qui je travaille essentiellement, contrairement à Julia. Et l'enjeu, pour moi, il est vraiment ça, dans la culture d'entreprise et dans le changement de pratique. Parce qu'aujourd'hui, les outils, qu'ils soient réglementaires ou techniques, on les a. Les filières, elles se développent. Quand on voit la filière du bois, la filière de la paille, la filière de différents éco-matériaux qui vont être intégrés dans nos bâtiments et qui vont permettre de réduire notamment l'empreinte environnementale. Mais aujourd'hui, c'est plutôt pour moi un frein culturel que technique ou réglementaire. Et après, il y a la question du coût. Et sur la question du coût, c'est vrai qu'il y a des outils qui existent. Mais encore une fois, là, c'est un changement dans la façon dont on évalue le coût d'une opération qui prend difficilement en compte les bénéfices de l'éco-construction, même s'il y a des améliorations. Pour parler du réemploi, où le réemploi il a pour objectif de donner une seconde vie à des matériaux qui sont déjà là, qui ont déjà été fabriqués. C'est difficile de, de prendre en considération le fait qu'on l'a déjà financé une première fois, qu'il va falloir le reconditionner, et tout ça va nous éviter d'en acheter des neufs. Aujourd'hui, économiquement, on a du mal à le mettre en évidence, ce bénéfice. Donc ça peut être aussi un frein au développement de l'éco-construction.
Oui, j'avais une petite question justement dans la continuité de ce que tu dis. Est-ce que finalement le fait aussi de prendre en compte le coût global d'un projet, notamment par exemple le coût de traitement des déchets ou de recyclage, etc., c'est pas aussi un argument à mettre en avant justement auprès des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage pour justement prendre en compte ce coût qui finalement est important et qui, dans une logique de réemploi, pourrait aussi être diminué finalement?
Alors oui, enfin il y a des outils, il y a des concepts qui existent pour sur le coût global,
oui.
Mais qui sont, enfin moi dans mon expérience et à ma connaissance, ils sont très peu, voire pas du tout utilisés. Mais oui, ça peut être une solution. Enfin en tout cas, il y a des réflexions qui ont été menées, il y a des outils qui existent pour le faire. Alors sur le coût environnemental, on peut parler d'analyse de cycle de vie, mais je laisserai Julie en parler parce que c'est une experte, contrairement à moi. Et sur l'aspect économique, c'est vrai que finalement, c'est des enjeux qui sont globaux. Or, une opération, elle va être à un endroit donné portée par une institution, une entreprise, une collectivité ou autre. Et elle ne va pas forcément prendre en compte toutes ces externalités dans son analyse de coût. Donc, voilà.
C'est pas encore très mature.
C'est pas très mature. Et souvent, on le compare à ce qu'on fait déjà et ce qu'on sait faire. Et donc, c'est difficilement comparable. Je prends l'exemple, je ne sais pas moi, de... Il y a un radiateur là-bas derrière, je vais prendre le radiateur. Et on va comparer un radiateur, le prix d'un radiateur neuf, qui correspond aux usages qu'on va chercher, aux performances qu'on attend, à un radiateur qu'on va devoir déposer, qu'on va devoir reconditionner, qu'on va devoir remettre en œuvre.
Déposer, je précise, c'est quand on est sur un chantier de démolition qu'on va le récupérer, non?
Ouais, c'est ça. Faut aller plutôt que d'aller le chercher au magasin, on va aller le chercher, enfin, je caricature, mais dans un autre bâtiment. Par exemple, on ne va pas prendre en compte le fait qu'on l'a déjà payé une première fois. Et on ne va pas prendre en compte aussi le fait qu'on ne compare pas deux équipements, là, dans le cas du radiateur, qui sont à qualité équivalente. Et après, rentre en compte, là, d'un point de vue environnemental, la durée de vie restante des matériaux. Donc, enfin, voilà.
Donc il manque peut-être à tous ces matériaux utilisés un coût environnemental. Je ne sais pas si ça existe, ce genre d'évaluation, mais disons que le prix d'un sac de ciment est peut-être sous-évalué, j'en sais rien. À vous de me dire.
C'est ce que disait Valentin, ouais. Les matériaux, ils ont une valeur environnementale par les fiches EPD, qui sont des fiches normées. C'est des entreprises qui évaluent sur, je ne sais plus, une quinzaine de critères environnementaux. Il n'y a pas que les émissions carbone, il y a l'utilisation d'eau, polluants, etc. Enfin bref, une quinzaine. Et du coup, ça donne des valeurs pour chaque matériau. Et ensuite, on peut faire un bilan de l'ensemble du bâtiment sur le carbone ou autre, en additionnant tous les matériaux, en gros. Et ça... moi j'ai un petit peu bossé dessus, mais il y a très longtemps, et je crois que ça évolue très vite. Donc je sais pas trop ce que ça donne actuellement, mais pour moi c'est un peu se focaliser sur des chiffres avec beaucoup d'hypothèses. Beaucoup d'hypothèses.
Trop d'hypothèses visiblement.
Et voilà, c'est pas forcément c'est pas forcément tout le temps correct.
Ok. Bon, en tout cas, est-ce qu'on doit se réjouir qu'il y a une part de recherche? En tout cas, on va rester positif, hein?
Oui, en effet, ce qui est positif, c'est qu'effectivement, on essaye de donner un cadre pour que tout le monde puisse aussi mener ses efforts.
Oui, tu parlais de changement de paradigme, on est en plein dedans, là.
Oui, et puis effectivement, là, si on parle que sur le volet environnemental, on va tout rapporter à un indicateur qu'est le carbone pour essayer de se rendre compte entre différentes solutions lesquelles nous permettent de limiter notre impact. Et ça, effectivement, les limites, c'est des déclarations, donc des producteurs. C'est qu'il y a un paquet d'hypothèses aussi sur la façon dont potentiellement ils seront mis en œuvre ou la manière dont ils vont être utilisés.
Ok, alors on a déjà fait un petit tour d'horizon, un petit état des lieux. Dans la prochaine partie, on va parler plutôt de solutions avec vous justement. Mais avant ça, petit jeu de mots, on va s'écouter un titre de This Is, c'est Laisse Béton.
J'étais tranquille, j'étais peinard, à coudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, okay. Il s'est approché de moi, et il m'a regardé comme ça.
T'as des bottes, mon pote, elle me botte.
Je parie que c'est des Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi je lui dis
quoi?
Laisse béton. Okay. Il m'a filé une beigne, je lui ai filé une torgnole. Il m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles.
Calme, t'as fait ça, calme.
J'étais tranquille, j'étais peinard. Accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar. Ouais. A commandé un café noir. Okay. Il m'a tapé sur l'épaule. Mm-hmm. Puis il m'a regardé d'un air drôle.
T'as un blouson, mec, ton, mais pas bidon.
Moi je me les gèle sur mon scooter. Avec ça, je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle. Je te montrerai mon opinel. Je te chouraverai ton blouson. Ouais. Moi je lui dis laisse béton. Il m'a filé une beigne, je lui ai filé un marron, il m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mon blouson.
Calme, calme.
J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête.
Et t'as le même blue jean que James Dean.
Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss. Il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi je lui dis laisse béton. Il m'a filé une beigne, je lui ai filé une mandale. Il m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
Et non, cette émission n'est pas sponsorisée par Lafarge. On vient de s'écouter Laisse Béton de This Is et nous parlons éco-construction. Vous êtes toujours sur Station B, sur Radio Pulse et avec nos invités Valentin Blanlot et Julia Serrière. Alors Valentin, on va parler avec toi plutôt de solutions et de réemploi. Peut-être avant, tu peux nous préciser, toi, quel est ton... Raconte-nous un peu ton job.
Alors mon travail, c'est d'accompagner donc les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire ceux qui ont des bâtiments et qui souhaitent les rénover ou les étendre ou en construire de nouveaux, à intégrer des matériaux de réemploi dans leur projet.
Ok. Et alors, est-ce que tu as beaucoup de solutions aujourd'hui à proposer à tes commanditaires ? Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça.
Ouais, si, y en a de plus en plus.
C'est bon signe.
Après, les solutions... elles viennent aussi en fonction de pourquoi le maître d'ouvrage il va faire du réemploi. Donc ça, c'est important déjà à comprendre. Ça peut être pour des raisons économiques. On a tous en tête, on se dit tous que la seconde main, c'est moins cher. Donc ça peut être une des raisons. Et d'ailleurs, c'est pas forcément chez mes clients, mais on le voit de manière générale, le réemploi aujourd'hui... on en fait surtout parce que par nécessité économique, l'émission radio se passe à la Cité de Chantier, c'est un très bon exemple.
Cité de Chantier, que je rappelle, est construit à 70-80% à base de réemploi, c'est ça hein ?
C'est ça, avec un budget très, très restreint. Donc pour rentrer dans ce budget-là, on a recouru au réemploi. Et donc la première des solutions finalement, c'est d'arriver à conserver les éléments qui sont déjà dans les bâtiments. Donc si par exemple tu réhabilites un bâtiment de bureau, ou tu réhabilites une école ou des logements, mon travail déjà ça va être d'identifier ce qui pourrait être conservé, c'est-à-dire même si le bâtiment il va être refait, il y a des éléments, que ce soit des matériaux, des équipements qui sont encore en bon état. Et
comme quoi concrètement ?
Bah, concrètement, ça peut être des portes, ça peut être des équipements sanitaires, ça peut être des radiateurs, ça peut être des luminaires, ça peut être du bois de charpente, ça peut être des ardoises, des tuiles, tous les éléments finalement qui composent un bâtiment. Voilà, donc déjà d'identifier ce qui peut être conservé, ce qui doit être déposé, mais du coup qui pourra être réinstallé, alors soit dans ce bâtiment ou soit dans un autre bâtiment.
Donc une sorte de première phase diagnostique, on peut appeler ça comme ça.
Tout à fait. Et après, dans les autres solutions, c'est aussi de faire appel aux filières de réemploi, c'est-à-dire qu'il y a des activités qui sont en train de se développer partout en France, où des entreprises vont collecter des matériaux dans des bâtiments qui sont démontés, qui vont les remettre en état et qui vont les revendre.
Ça c'est un peu des nouveaux métiers, non ?
Donc ça, c'est effectivement, dans le bâtiment, c'est des métiers qui ont finalement toujours existé, qui se réinventent, qui s'adaptent aussi aux enjeux et au contexte actuel.
Excuse-moi, quand tu dis ça se développe partout en France, c'est quid de la Normandie, du coup, est-ce qu'il y a déjà des choses ?
Oui, en Normandie, il y a une dynamique. On a créé une association là, il y a moins d'un an, une association régionale sur le réemploi dans le bâtiment en Normandie. On est 9 fondateurs, fondatrices. Et parmi ces personnes, il y en a 3 aujourd'hui, 3-4 qui développent une activité qui consiste à remettre sur le marché des matériaux qui sont issus de bâtiments démontés.
Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de personnes formées pour aller déposer, valoriser et ensuite réimplanter, je n'ai pas les termes exacts. Mais...
Oui, c'est vrai que la formation, c'est un enjeu assez important à tous les niveaux, chez tous les acteurs, hein, que ce soit chez le maître d'ouvrage, chez l'architecte, chez le bureau d'études, chez l'économiste, chez les artisans. Parce qu'on est tous finalement conscients des enjeux, on a tous envie aussi potentiellement de faire du réemploi. Mais effectivement, il y a des métiers qu'il faut soit réinventer, soit qu'il faut créer de toutes pièces, comme par exemple les reconditionneurs, ceux qui vont remettre en état. Je parlais tout à l'heure ardoise, tuile par exemple, ou même de la charpente. Finalement, les artisans, ils sont très bien placés, eux, pour faire ce travail, dans le sens où ils ont une bonne connaissance des matières et de leur mise en œuvre, technique, normative, etc. Et pour eux, c'est ça, c'est à la fois redonner du sens et retrouver aussi des façons de faire du travail de la matière. Et parce qu'il y a beaucoup de projets où finalement ces métiers-là, on va les solliciter pour de la mise en œuvre, de la pose, et pas forcément pour leur expertise sur les matériaux. Le réemploi, il re-questionne ça et il invite finalement, il offre la possibilité aux artisans de valoriser leur savoir-faire par rapport à la matière.
Et toi, tu es plutôt dans le milieu professionnel, mais si je suis un particulier et que je veux rénover une maison ou un ancien bâtiment, comment je fais si j'ai envie de faire du réemploi et que je ne suis pas du tout formé à ce genre de pratique et que j'ai même aucune idée des filières qui existent ? Comment je fais justement pour pouvoir rentrer dans cette logique-là ?
Pour moi, le premier réflexe, alors ça dépend si tu construis une maison neuve de toutes pièces ou si tu as déjà un existant. Mais partons du principe que tu as déjà un existant mais tu n'as pas de connaissances dans le bâtiment, à un moment donné tu vas rencontrer des architectes ou tu vas rencontrer peut-être directement des entreprises, et c'est avec ces personnes-là en fait qu'il faut vraiment évoquer ce sujet et toi c'est un de tes besoins, c'est-à-dire que tu vas vouloir rénover ta maison en ayant recours à du réemploi ou en tout cas à d'autres solutions qui vont te permettre de diminuer l'impact de ton projet. Et Mais voilà, enfin, il n'y a pas de solution miracle. C'est vraiment avec les personnes compétentes du bâtiment que tu vas pouvoir que tu vas pouvoir essayer d'atteindre cet objectif-là, quoi.
Okay.
Donc une des solutions, le réemploi. Mais une autre des solutions, c'est aussi de, pourquoi pas, comme les trois petits cochons, on en parlait en intro, je caricature, mais c'est de, pourquoi pas, monter des murs à base de paille, de terre, et c'est un petit peu ton job, Julia, tu peux nous en parler ?
Ouais. Eh bien, oui, moi je travaille la terre, la chaux, et des isolants comme le chanvre et la paille. Je fais surtout de la rénovation de bâtis anciens, traditionnels. Et je fais de la rénovation thermique aussi. Pour la construction paille, ça peut être du neuf.
C'est-à-dire, vous bossez avec des agriculteurs qui vous ramènent des bottes de paille et vous montez un mur, c'est ça ?
À peu près, mais un peu plus normé quand même. Les bottes de paille qu'on utilise, elles ont une certaine densité. Et du coup, il faut des presses assez spéciales, avec des dimensions spécifiques, et voilà, il faut faire attention à l'humidité, etc. Donc il y a plein de précautions propres à la construction paille.
Et alors, côté terre, est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle terre ? Est-ce qu'on utilise la terre du territoire pour aussi être peut-être le plus vertueux possible ?
Oui, alors la terre, l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser vraiment très proche. Ça peut être de la terre du jardin, par exemple. Il ne faut pas que ça soit une composition avec beaucoup d'argile. Enfin, voilà, y a des grandes sortes d'idées de terre, mais ce n'est pas hyper difficile à l'avoir. Et après, on peut la mélanger à du chanvre pour l'isolation. Du coup, on allie les deux caractéristiques de la terre, qui a des caractéristiques plutôt de gestion d'humidité, de confort hygrométrique, la gestion de l'humidité dans la pièce, et le chanvre qui est isolant. Voilà, après, on peut faire des enduits, on peut faire plein de choses.
Et alors, petite question. Ah, Floriane, pardon.
Ouais, oui, j'avais une question sur la notion de durée, en fait, et de temps. Est-ce que c'est, quand on fait appel à ce type d'approche, ou ce type de technique, ou de matériaux, est-ce que ça allonge considérablement la durée d'un chantier ? Est-ce que c'est plus long ? Est-ce que c'est... Ouais.
Je croyais que tu parlais dans la vie d'un bâtiment. En construction, oui, c'est plus long et ça nécessite de travailler aux périodes plutôt estivales, si on ne veut pas faire recours à du chauffage ou de la ventilation mécanique. Du coup, de avril à septembre, octobre, ce qui est assez cool parce qu'on se repose l'hiver, mais c'est un petit critère pour construire.
Ok. Et la question que tu t'es posée, du coup, j'ai aussi sur la durée de vie des bâtiments.
Et aussi liée aussi à cette problématique des assurances, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes accompagné par des assurances ? C'est un peu nouveau, tout ça.
Eh bien, moi, je travaille dans une coopérative. Du coup, on est une centaine dans la coopérative. Donc, c'est plus facile d'avoir des contrats d'assurance.
Chantier de demain, je le rappelle.
C'est ça. Mais c'est des techniques non courantes. Donc, il faut une assurance spéciale, oui. Et après, de toute façon, on a une assurance décennale. Donc, s'il y a un souci et que c'est de notre faute, on revient. Et du coup, tu disais...
Sur la durée de vie du bâtiment.
Sur la durée de vie du bâtiment, eh bien, si c'est bien pensé, si on fait attention à l'humidité, si on fait attention au bâti, etc., existant, c'est des matériaux qui peuvent durer, je ne sais pas, une centaine d'années. Enfin... Bien plus que la laine de roche ou la laine de verre, par exemple, qui n'est pas du tout capable de gérer l'humidité du bâtiment et de l'humidité qui est inévitable dans tous les cas dans une maison.
J'ai une autre question. Ouais. Et ça me fait penser à autre chose, c'est ce que tu évoques. Est-ce que aussi dans un contexte d'adaptation au changement climatique, avec par exemple des périodes de canicule beaucoup plus intenses ou même des événements météorologiques beaucoup plus violents, plus fréquents et plus intenses, ce type de construction a un avantage ou...
Oui, alors la paille, c'est un bon déphasage, enfin c'est une bonne résistance thermique et un bon déphasage par rapport au confort d'été. Et puis en fait, vu qu'une botte de paille c'est hyper épais, ça donne une super isolation. Donc ça pour l'été, c'est chouette. Et après pour les autres conditions météorologiques, il faut toujours faire attention à l'eau, que ce soit pour la paille et la terre, de toute façon. Ouais, non, rien de particulier.
Je pense que Floriane faisait référence au grand méchant loup qui souffle sur la maison des trois petits cochons. Enfin, j'arrête vraiment avec cette image.
C'est typiquement le frein culturel, en fait. Quand tu vois cette image de c'est la maison en pierre qui tient et les autres qui s'envolent, bah ça joue toujours sur l'imaginaire collectif qu'on se fait de l'éco-construction. Et donc tu vas arrêter tout de suite.
Alors, si tu étais arrivé à l'heure, tu aurais compris qu'on le disait que c'était bullshit en début d'émission.
Super.
Voilà. Eh bien, ça tombe bien qu'on rigole un petit peu, puisque nous allons désormais faire place à notre hurlu-berlu, notre bout en train, David, qui nous a préparé une petite chronique.
Oui, bonsoir, chers amis. Commençons donc par le début, la préhistoire. La caverne n'est-elle pas le premier exemple d'éco-construction vertueuse? Elle nécessite peu de travaux, à part quelques dessins de bisons sur les parois de la chambre. La température des pièces à vivre y est constante, ce qui garantissait la qualité des vins. Dans la caverne, les ouvertures sont peu nombreuses, ce qui permet d'échapper à l'impôt et aux coups de soleil. Question éco-construction, nos habiles ancêtres construisaient des pièges, des fosses pour capturer les mammouths. L'homme moderne s'en est d'ailleurs souvenu en baptisant ces grands magasins des mammouths. Il y en avait encore un en 60 qui écrasait les prix pour nous protéger de l'inflation. Et puisqu'on évoque la fiction, comment ne pas penser en matière d'éco-construction aux trois petits cochons? Nouf Nouf, très respectueux de l'environnement, construit sa maison en paille. Il ouvre la voie aux huttes, aux chaumières de nos campagnes. Malheureusement, le grand méchant loup disperse le fétu de paille d'un souffle. Nouf Nouf se réfugie chez son frère Nif Nif. Éco-constructeur lui aussi est visionnaire, il a construit son logis en bois, quoi de mieux que le bois? Matériau moderne, naturel, solide, isolant, flottant et modulable. Oui, mais là encore, le loup est plus fort et s'y prenant à plusieurs fois, il s'époumonne comme un cyclone sur la pauvre cabane. Nouf Nouf et Nif Nif s'échappent en courant chez Naf Naf qui a construit sa cabane en briques. Bon. Aux dernières nouvelles, Naf Naf a viré ses deux frères de chez lui pour des raisons de cochonnerie que la censure m'oblige à passer sous silence. Nouf Nouf se droguait, d'où son surnom Schnouf Schnouf, et surtout et l'autre se prostituait. Mais tout cela ne nous regarde pas. Le loup qui attendait à la porte les mangea sans autre forme de procès, comme quoi l'éco-construction ne garantit ni la cohabitation ni la survie. Plus extraordinaire encore en termes d'éco-construction fictive, l'histoire de ce menuisier italien Geppetto, inventeur paternel d'une marionnette nommée Pinocchio. Pauvre pantin, mais vrai menteur, le nez de Pinocchio est vraiment long quand il ment. À tel point que Geppetto s'en sert d'étendoir pour faire sécher ses caleçons. Pratique éco-constructive, humiliante, à déconseiller. Un autre comble de l'inventivité fictive qui remonte à l'époque où les Grecs et les Romains croyaient encore au Père Noël, celui du cheval de Troie. Ce cheval est en bois. Personne ne se méfie. En effet, tout le monde, même Henri IV qui naîtra quelques siècles plus tard, tout le monde a eu en cadeau quand il était petit un cheval en bois. Cheval à bascule. Personne donc ne se méfie. Il s'agit là d'un véritable cheval en bois fabriqué avec du bois d'arbre, probablement des planches en kit de chez Castorama, mais bâti à l'ancienne avec des tenondes et des mortaises, donc éco-responsable. Un bois noble français avec des nœuds et surtout avec des soldats à l'intérieur. Le cheval de Troie, c'est un tour de passe-passe. Je ne voudrais pas terminer cette rubrique sans saluer l'inventeur de l'échelle pour atteindre la Lune et celui qui a aménagé le château de la Belle au bois dormant où l'on a posé du triple vitrage pour garantir le sommeil de la Belle. Mais ne vous méprenez pas, chers amis, car au-delà de mes inepties, je tire mon chapeau aux éco-constructeurs et aux éco-constructeuses qui s'orientent vers un type d'habitat ou de construction plus vertueuse pour notre planète.
Eh bien, applaudissons David et les éco-constructeurs et éco-constructeuses.
Alors on va désormais passer à une autre pause musicale, ça sera la dernière pause musicale de l'émission. On va s'écouter Concordski pardon, et le titre L'Incendie. Elle sort son prochain EP demain, 21 février, Salon des Arts. Elle est accompagnée par WW2W, Silverbar Records et Cartel. On s'écoute L'Incendie de Concordski.
Dernier geste sur la chaîne de montage, tant encore la douleur se propage. Derrière moi, le bruit sourd des rouages, toute une vie dans ce grand sarcophage. Mon usine, ma machine, mon histoire, les néons éclairent mon temps.
Vous êtes toujours sur Bonjour Turbine dans la 78e émission consacrée à l'éco-construction avec nos deux invités Valentin Blanlot et Julia Serrière, mais il est désormais temps de la deuxième CPV.
Je vais vous parler de Castor Hérault, c'est une source France Info. Dans la région de Burdi, à 50 km au sud de Prague, un projet local de barrage était prévu depuis plus de 7 ans. Il s'agissait d'aménager un site protégé en zone naturelle humide. Mais le projet s'enlisait en raison de procédures administratives. Le permis de construire se faisait toujours attendre. Et voilà qu'en l'espace de 2 nuits, fin janvier, les riverains ont vu surgir à travers de la rivière des amas de pierres, de boue et de bois, des constructions complexes qui ont permis de ralentir le débit de la rivière en aval. Les casteurs ont fait un excellent travail. Ils ont construit une zone humide avec des piscines et des canaux, expliquent les experts de l'Agence tchèque de protection de la nature, et ceci sur une zone presque deux fois plus grande que ce qui était prévu. Depuis, la commune n'en finit pas d'encenser cette colonie de castors. Celle-ci lui a en outre permis d'économiser 1 million d'euros, 30 millions de couronnes tchèques. Au-delà du travail gratuit des castors, les barrages construits par ces animaux semi-aquatiques sont intéressants à double titre pour l'environnement. Ils jouent un rôle de filtration tout en créant des retenues d'eau plus petites et plus nombreuses que dans une construction humaine. Des études menées sur le fleuve Colorado, dans l'ouest des États-Unis, montrent que les barrages de castors permettent de retenir des sédiments, parfois même certains polluants comme les métaux lourds, avec une efficacité supérieure aux structures construites par l'homme. Ils permettent donc d'avoir une eau plus saine en aval. Et par ailleurs, en construisant plusieurs petits barrages et en créant des retenues d'eau, les ouvrages de castors permettent de ralentir le débit des cours d'eau à certains endroits. S'ils provoquent parfois quelques inondations sur les berges, ils créent surtout des zones humides qui favorisent le développement de la végétation ou l'installation de certaines espèces comme les grenouilles et des insectes. En France, le castor est plutôt rare. Les premières opérations de réintroduction remontent aux années 60 et aujourd'hui, le castor a déjà colonisé 17 000 km de cours d'eau. Selon l'Office français pour la biodiversité, on en trouve dans le centre et l'est de la France. Et contrairement au ragondin, qui est une espèce exotique envahissante ramenée par l'homme d'Amérique du Sud et qui peut être chassée, le castor est une espèce protégée avec laquelle il est facile de cohabiter.
Et j'en profite pour vous dire d'aller sur YouTube, regarder l'émission Partager, c'est sympa, qui parle justement d'une association, les castors, qui retravaille les cours d'eau. Justement, parlons de nature et d'architecture avec toi, Floriane.
Eh bien oui, puisque ces dernières décennies, l'architecture a bien cru pouvoir ériger des murs et se construire en opposition avec la nature. La période de l'après-Seconde Guerre mondiale, caractérisée par l'apogée du pétrole, nous a conduit à penser l'architecture sous un angle purement esthétique et fonctionnel, hors des contraintes terrestres. Pourtant, si on remonte un peu le fil de l'histoire, depuis le néolithique jusqu'à nos jours, l'évolution de l'architecture n'est pas le seul fait de phénomènes culturels, mais également le produit d'impératifs naturels, physiques, biologiques, sanitaires et climatiques. Et désormais, après un demi-siècle de postmodernisme où l'homme a cru pouvoir s'affranchir de la matérialité de son existence, la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité de ce début du XXIe siècle remettent le réel au cœur des préoccupations.
Du coup, quel espace l'humanité peut-elle s'octroyer sans détruire son environnement ?
Comme l'explique l'architecte Philippe Ram dans son ouvrage « Histoire naturelle de l'architecture », il s'agit désormais de prendre la mesure de l'existence des choses hors de la conscience humaine et redonner de l'importance aux facteurs non humains qui contribuent à façonner nos vies et la Terre en général.
Mais alors, que fait-on, Floriane ?
Eh bien, la manière dont les professionnels de l'aménagement, architectes et paysagistes, mais aussi artistes, sont amenés à croiser leur univers est essentielle. On voit aujourd'hui notamment apparaître une nouvelle génération qui expérimente des champs d'action transversaux et pluridisciplinaires en revisitant la relation de l'humanité à la nature. On voit de nouvelles formes et processus de construction plus durables, souvent expérimentaux, qui se mêlent à des expériences inédites de création avec le vivant. Donc par une meilleure compréhension du non-humain et par la recherche de façons d'agir sur lui autant qu'avec lui, de nouvelles notions font leur apparition à l'image du biomimétisme ou de la bio-inspiration. Et selon la philosophe Chris Younes, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette et à l'École spéciale d'architecture, il s'agit désormais de comprendre et d'imaginer d'autres possibles à partir des résistances et des ressources des milieux, de leurs potentialités et des intensités de vie. Des alliances de différents types visant à révéler, ménager, revivifier sont engagées et ce en prenant en compte les éléments géographiques, tectoniques, climatiques, atmosphériques, biologiques, techniques et culturels.
C'est donc toute une approche de l'architecture à refaçonner.
Exactement, et avec une nouvelle pensée par les milieux qui doit émerger pour apprendre à composer avec l'existant. Le rôle de l'architecte est désormais de réfléchir à ces modalités de rencontre entre l'habitant, l'humain et l'habité, c'est-à-dire les éléments naturels humains et non humains. Finalement, l'architecture ne doit plus être considérée comme une rupture, comme un mur, mais plutôt comme une transition entre le dedans et le dehors.
Eh bien, merci pour cette chronique, Floriane. Alors, il me semble que tu avais d'ailleurs pris les devants pour poser des questions à Julia et Valentin. Valentin, pardon, je te laisse la suite.
Ben oui, ben un petit peu dans la continuité de ce que je disais à l'instant. En fait, depuis les années 2000, si je ne me trompe pas, on voit apparaître pas mal de collectifs en fait, assez pluridisciplinaires, avec des architectes, des paysagistes, mais aussi des artistes, qui finalement renouvellent un petit peu les manières de penser l'architecture et l'aménagement urbain, en proposant aussi de nouvelles méthodes de conception et avec l'envie d'envisager des formes plus expérimentales associant plusieurs corps de métier. Je pense notamment à plusieurs collectifs que tu connais bien, Valentin, mais Encore Heureux, ETC, Bella Stock, etc. Et on voit aussi que finalement, au-delà des techniques et des matériaux, c'est aussi tout un processus qui a à repenser, qui intègre, comme je le disais, la transdisciplinarité, mais aussi s'inscrire dans un territoire, dans ses ressources, dans ses filières, aussi intégrer les populations locales, être voilà, dans une démarche de construction qui est complètement reconnectée finalement avec le tissu dans lequel elle s'inscrit.
Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de ces structures, collectifs encore, ETC, qui d'ailleurs ont œuvré ici même? Quelles sont leurs missions? Comment ils procèdent? On va chercher dans l'imaginaire un petit peu pour travailler tous ces sujets.
Alors comment ils procèdent au quotidien, je ne sais pas exactement. Moi, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas travaillé avec eux. Mais effectivement, enfin, en tout cas, moi, dans mon activité, je le vois bien. Et c'est pour ça aussi que je parlais de changement de pratique. Et que l'enjeu essentiel pour faire, je vais parler là réemploi, mais je pense qu'on peut le généraliser à tout type d'innovation, notamment dans le bâtiment, c'est d'arriver à créer cette transversalité, arriver à se mettre autour de la table et à se mettre OK sur pourquoi on le fait, et pour ensuite essayer de voir comment on va le faire, et pas forcément partir bille en tête en disant « bon voilà, on a juste une économie de projet, dans tous les cas les matériaux existent et... » Et on va faire comme d'habitude. Donc, ouais, sans forcément rentrer dans le détail de comment ça se passe concrètement, mais c'est de l'ouverture d'esprit, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'écoute. Et c'est l'envie de faire ensemble et de faire... différemment, en s'inspirant de pratiques ancestrales, de pratiques nouvelles qui ont lieu sur d'autres territoires. Et sur la notion de territoire, c'est vrai que le réemploi, mais je pense que la paille et la terre, c'est la même chose, c'est que c'est très ancré. Et qu'effectivement, ça nous renvoie à cette matérialité qu'on ne peut pas ignorer. On fait avec ce qui est déjà là, en fait. On ne cherche pas forcément à s'inscrire dans une économie qui est mondiale. Si on prend le béton, on a besoin d'acier qui va être extrait ou fabriqué à l'autre bout du monde, avec des enjeux qu'on ne maîtrise pas du tout. Là, on essaie au contraire de faire avec ce qui est disponible en termes de matière, mais aussi de savoir-faire, qui sont souvent liés. Donc, finalement, ça reste beaucoup de bon sens, mais... Après, quand on a une activité autour de ça, il faut quand même avoir un modèle économique, il faut quand même en vivre. Donc c'est un équilibre à trouver entre une envie de faire différemment et le besoin de pouvoir vivre de son travail, quoi.
Et alors, tu parlais du territoire, il en reste des traces de plutôt en milieu rural, mais de ces bâtiments qui ont été construits avec du torchis plutôt dans les fermes. Vous, c'est un petit peu la démarche que vous avez initiée, Julia, avec votre collectif La Louve dans la Bergerie. Vous êtes plusieurs, vous avez envie de faire ensemble pour réhabiliter, rénover un ancien corps de ferme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce processus?
Oui, carrément. Oui, c'est une asso avec laquelle on est 4-5 à avoir acheté un gros corps de ferme. Donc, c'est l'association qui est propriétaire. Il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de terrain et pour l'instant, beaucoup de bâtiments sont un peu en ruine. Donc le plan est de rénover petit à petit les bâtiments. Et vu la grandeur de ce projet, il faut effectivement beaucoup de monde et vu aussi le manque de moyens financiers. On réfléchit à rénover beaucoup en chantier collectif, en chantier participatif, accompagné par des pros lorsqu'on a besoin et avec beaucoup de matériaux de récup ou avec ce qu'on a, comme Valentin disait, avec ce qu'on a sur place.
Oui, il y a cette idée de transmission qui est quand même hyper présente. Tu parlais de pros qui viennent, mais aussi de curieux, curieuses qui se disent « Tiens, peut-être que moi aussi, à l'avenir, je construirai ma maison de cette manière-là, c'est ça ?»
Oui, c'est ça. Ça, c'est le gros avantage des chantiers participatifs où il y a plein de bénévoles qui viennent un peu de tout milieu, avec souvent une personne pro qui accompagne et gère le chantier. Et ça fait un beau mélange de personnes qui donnent du temps. Et il se passe souvent des belles choses, parce que c'est souvent des chantiers où on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et on n'a pas trop besoin d'outils qui font du bruit. On peut discuter, on prend du temps, on mange bien. Et voilà, c'est souvent des chouettes moments autour de ces pratiques de terre, paille ou chanvre.
Donc tu nous le disais tout à l'heure, c'est plutôt sur la période printanière estivale. Vous, j'imagine qu'à un moment donné, vous allez aussi ouvrir ces chantiers participatifs. Ou il y a un site où est-ce qu'on peut suivre un petit peu vos activités?
Alors pour l'instant, on n'a pas de site. On a une lettre d'info qu'on envoie à peu près tous les deux mois. Le mail s'appelle lalouvedanslabergerie@protonmail.com. On fait déjà pas mal de chantiers avec des amis ou des proches autour de nous. Pour l'instant, on n'a pas trop prévu de faire de la com pour avoir plein de monde, parce qu'on a déjà beaucoup de monde. Mais toutes les personnes sont les bienvenues pour voir comment ça se passe. C'est à 30 minutes de camp.
Très bien, ben on se fera le relais. Alors je propose, avant cette fin d'émission, de passer à l'agenda culturel d'Alain.
C'est qui ?
C'est quoi ?
C'est où ?
C'est quand ?
L'agenda culturel d'Alain, le conteur flâneur.
Je vais vous parler d'un événement qui va avoir lieu dans 3 semaines, qui s'appelle Bloody Fleury, et donc l'édition 2025. Cette année, le Festival du Polar et du Mystère Bloody Fleury fête ses 10 ans. Et avec cette édition, qui se déroulera une fois encore dans le gymnase aménagé en différents espaces Auguste Delaune, rue François Mitterrand à Fleury-sur-Orne, au pied du Château d'Eau, vous ne pouvez pas le rater, les 8 et 9 mars, la soirée du 7, malheureusement, affiche complète, donc c'est même pas la peine de venir si vous n'avez pas de place. Comme d'habitude, chaque heure, une conférence, une rencontre ou une table ronde et un spectacle pour petits et grands. Deux expositions, La Loi dans l'Ouest, créée en collaboration avec les éditions Bambou Grand Angle, les plus grosses éditions de BD en France, et Colonel Moutarde et compagnie, une réinterprétation du célèbre jeu d'enquête par les élèves de l'école des métiers de la création Brassard à Caen. Deux jeux pour les plus jeunes, le défi de Sherlock Holmes et les enquêtes de la famille Bogart. Des autrices et auteurs en dédicace, et là il va y avoir du très lourd. Le programme complet est à retrouver sur bloody.fleury-sur-orne.fr. Sachez que Olivier Norek sera là le samedi avec son dernier roman « Les guerriers de l'hiver », qui est un chef-d'œuvre, même si ce n'est pas un polar, mais aussi Olivier Truc, Catherine Boissel, Christophe Dubourg, le local de Caen, Patrick Baudot, ancien commissaire de police au Quai des Orfèvres, Olivier Mas, qui était à la DGSE au Bureau des Légendes, les vrais Bureaux des Légendes. Il a été 3 ans sous couverture de l'autre côté de la Terre. Non, il est toujours vivant et il a un regard, c'est un scanner. Quand il te regarde, tu sais que tu ne peux rien lui cacher. Et bien d'autres encore. Vous pouvez voir le programme sur l'adresse que je vous ai donnée tout à l'heure. Pour la BD, Vincent Maillet, excusez du peu, Corentin Rouge, Jérôme Méo et Paul Gastine, ou encore Frédéric Pontarolo. Il a entre autres adapté en BD un polar de Olivier Norek. J'en oublie, pardon. Si tout cela ne vous donne pas envie de vous précipiter à Fleury les 8 ou 9 mars, je ne sais pas ce qu'il faudrait vous dire. Et, cerise sur le gâteau, c'est gratuit. Vous pouvez bien sûr acheter sur place les livres des invités pour les dédicaces grâce aux partenaires libraires Eureka Street et Bédérard. Donc tous à Fleury le 8 et 9 mars. Ça va saigner.
Eh bien, le message est lancé. Merci pour cet effet d'annonce. Alain, allez, il nous reste une trentaine de secondes. L'éco-construction, est-ce que si on a envie de se renseigner un peu plus, il y a des sites, des associations, un réseau à joindre ?
Bah, notre site internet, les chantiers de demain déjà.
Il y a l'association régionale de promotion de l'éco-construction, donc l'ARP. Et il y a plein d'acteurs. Vous allez vous perdre un petit peu sur internet et vous allez faire de belles rencontres. Et il y a une réflexion en cours avec la filière du bois, avec la filière du réemploi et la filière de l'éco-construction de créer un centre de ressources autour du bâtiment. Alors ça va être bâtiment durable, mais même si on n'est pas tous d'accord sur le durable, on pourrait le dire soutenable par exemple, qui est à l'état de réflexion. Voilà.
Ok, eh ben on va suivre ça de très près. Merci beaucoup Valentin Blanlot, Julia Serrière à la technique. Merci Marion et Léna, merci Florian, merci Alain, merci David, merci Jonathan, merci au public venu en nombre ce soir. Vous étiez bien sur Bonjour Turbine, la 78e. On se retrouve dans 2 semaines.